Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 11 août 2023. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous nous intéressons à la situation politique au Niger et notamment le rôle de la diplomatie américaine et des autres acteurs, parmi lesquels la CEDEAO. Les dirigeants de la CEDEAO ont ordonné jeudi à la fin d'un sommet à Abuja l'activation de la force d'intervention d'attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, à la tête de l'organisation, avait affirmé avant la lecture des résolutions espérer parvenir à une résolution pacifique, ajoutant « Tout n'est pas perdu ». Le président ivoirien Alassane Ouattara a lui affirmé à la presse avant son départ du sommet que la CEDEAO était intervenue par le passé au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie et en Guinée-Bissau lorsque l'ordre constitutionnel était menacé. Ces dernières semaines, la communauté internationale s'est mobilisée pour régler la situation au Niger. Certains, comme les États-Unis, optant plus pour une résolution pacifique et donc diplomatique de la crise, contrairement à la France, mise à tort ou à raison au banc des accusés qui dit s'aligner derrière la position de la CEDEAO après sa réunion de jeudi. Ce vendredi, l'Union africaine juge inadmissibles les conditions de détention du président Bazoum. Des chefs d'état-major ouest-africains se réunissent à nouveau samedi, demain, au Ghana. Et pour nous accompagner dans cette émission, pour débattre de tout cela, nous avons comme invité ici à Washington DC, René Lecq. Vous êtes journaliste et analyste politique. René Lecq, bonsoir. René Lecq, bonsoir.
Bonsoir John, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, merci. Merci d'être là, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Louis Magloire Kemayou est avec nous en direct de Lomé au Togo. Il me semble qu'on l'a perdu. Est-ce qu'on a Cabral Libi? L'honorable Cabral Libi est censé être avec nous, donc nous reviendrons sur tous ces invités tout à l'heure. Mais je vais commencer peut-être par René Lecq. Déjà, votre avis sur toute cette situation qui se passe donc au Niger et tout le ballet diplomatique qu'on voit à travers cela.
Écoutez, John, moi je considère que c'est une série d'événements malheureux. D'abord, la situation de crise au Niger en interne qui a entraîné un coup d'État militaire. Tout coup est absolument condamnable, en particulier des coups d'État militaires. Et c'est une situation malheureuse, okay. Mais je crois que la situation encore plus malheureuse, bien entendu, c'est celle qui consisterait à envisager, comme c'est le cas de certaines autorités en Afrique de l'Ouest et dans certaines capitales occidentales, donc d'envisager une intervention militaire. Ce serait amener à trouver une solution désastreuse à une situation déjà tragique. Parce que je pense effectivement qu'une intervention militaire aujourd'hui au Niger, dans les conditions actuelles par rapport à la situation interne au Niger, mais également par rapport à la situation un peu de feu, je la qualifierais ainsi, qu'il y a dans le Sahel, je pense que ce serait tout simplement désastreux pour les populations.
En tout cas, on suivra cette actualité sur Facebook. Nous recevons également des réactions avant de retrouver nos autres invités. Cette réaction de Dev Onep qui dit « Si toute l'Afrique se révoltait ainsi, l'ordre mondial sera bouleversé. » Jérémy Nikiema dit « C'est la CDAO de la France et non de l'Afrique de l'Ouest. » Édouard Compaoré, la CDAO, France est morte et enterrée. Le combat que la CDAO veut faire au Sahel, c'est pour aider la France. Sinon, la CDAO ne gagne rien dans cette situation. Alors, René Lec, les intellectuels sont intervenus dans ce dossier cette semaine. Vous avez écrit avec les autres une tribune. Quel est le message que vous vouliez passer?
Écoutez, non, c'est le message que, selon lequel une intervention militaire au Niger n'est pas la solution à la situation actuelle. Il faut trouver, c'est un peu du reste la position américaine que je salue au passage, qu'il faut négocier, qu'il faut trouver une solution pacifique à la crise interne. Mais au fond, derrière tout ça, le soubassement de la question et de la tension actuelle, c'est au fond la persistance le prolongement du pouvoir et de la puissance coloniale au Niger et dans la région ouest africaine, en particulier francophone. Et je fais bien entendu référence ici à la politique française sur l'Afrique, qui est au fond de plus en plus décriée et qui est devenue complètement insupportable à la jeunesse oui. africaine. Donc contrairement à ce qu'il se dit, je ne pense pas qu'il y ait un sentiment anti-français, pas du tout, loin de là. Je pense que les Africains d'Afrique francophone sont plutôt francophiles. Mais ce qu'il y a, c'est un rejet de la politique française qui, depuis plus de 6 décennies, semble vouloir par tous les moyens, y compris les moyens militaires, et je passe sur les moyens économiques et financiers, contrôler ces pays, et au plan politique également. Donc ça, il y a quelque chose d'insupportable, et je pense que ce qu'il y a d'intéressant, John, c'est que c'est pratiquement la fin, ou c'est l'épilogue, ou c'est peut-être au milieu du chapitre, je n'en sais rien, d'un tournant historique, où vraiment la question de l'indépendance et de la souveraineté est posée au centre de l'agenda africain aujourd'hui.
On a également Lumagloire qui nous a donc rejoint. Lumagloire, bonsoir et merci d'être avec nous. On observe que la CDAO semble souffler le chaud et le froid. D'une part, elle semble avoir mis un peu d'eau dans son vin en évoquant la poursuite du dialogue diplomatique. Mais d'autre part, elle garde l'option d'une intervention militaire. Comment voyez-vous la suite des choses?
Je crois que la situation au Niger est très préoccupante pour la CDAO parce que le peu de crédibilité qu'il lui restait, elle risque de la perdre dans cette opération au Niger. C'est-à-dire que l'Union africaine a donné un délai de 15 jours aux poutistes pour rendre le pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Mais la CDAO est beaucoup plus ferme que l'Union africaine puisque, au-delà des sanctions économiques très dur qu'elle a appliqué contre le Niger, elle a donné 7 jours. Et au terme de 7 jours, il se trouve que ce sont les poutistes qui ont la main. Ils ont nommé des gouverneurs militaires, ils ont nommé un gouvernement et un premier ministre. Et aujourd'hui, il semble avoir l'opinion publique, à la fois au Niger et dans les pays voisins, pour eux. Ce qui rend très difficile une intervention militaire dans ces conditions, parce que non seulement on risque d'avoir des boucliers humains qui vont se présenter, mais il y a les risques aussi d'avoir des relations difficiles avec les voisins, parce qu'il y a le précédent lien. Et chacun des voisins dit que s'il y avait une intervention militaire aujourd'hui au Niger, on risque de recréer les conditions de l'intervention en Libye qui ont débouché sur l'exacerbation du djihadisme et du terrorisme dans le Sahel. Et voilà, à mon avis, ce qui fait que la CDAO, qui a été très vindicative au début, semble mettre de l'eau dans son vin, mais n'a pas abandonné l'idée que toutes les cartes sont sur la table, y compris celles d'une intervention militaire.
Merci, Luma Gloire. L'honorable Cabral Libi nous a rejoint. Vous êtes journaliste, analyste politique et député. Vous êtes en direct de Kribi au Cameroun. Cabral Libi, bonsoir et bienvenue. Ce qui exige le retour de Mohamed Bazoum aux affaires parle de retour à l'ordre constitutionnel. Sauf que l'ordre constitutionnel implique à la fois un ordre, on va dire, légal et donc conforme à la Constitution, et un ordre légitime dont le socle semble être le soutien de la majorité du peuple. Quelle est l'analyse que vous inspire la situation actuelle au Niger?
Bien, bonsoir à vous, John, et bonsoir aux autres panélistes et à tous les auditeurs. J'espère que vous me recevez bien.
On vous reçoit, Carabal.
Ok, ben, je voudrais rebondir tout de suite sur ce que vous venez de dire et qui, de mon point de vue, est absolument pertinent. La CEDEAO et même la communauté internationale, de mon point de vue, devraient s'abstenir d'initier quelques initiatives militaires que ce soit au Niger, pour au moins deux raisons. La première, c'est que la CEDEAO n'est pas prête pour ce genre de choses. Il faut se dire la vérité. C'est vrai que la CEDEAO s'est dotée depuis 1999 d'un mécanisme de prévention, de règlement, de gestion et de règlement des conflits, mécanisme qui jusqu'à ce jour souffre de grosses lacunes et insuffisances, notamment logistiques, administratives et financières. Donc, on a connu déjà quelques expériences par le passé dans le cadre de la force d'interposition qu'on appelle ECOMOG. On l'a vu il y a quelques années au Libéria, en Sierra Leone, ça s'est terminé de façon catastrophique. Toute chose qui mettait donc effectivement au goût du jour les insuffisances de ce mécanisme de gestion des conflits. Donc ils ne sont absolument pas prêts. Et ce qu'ils veulent faire là à l'emporte-pièce, pour moi, c'est acquis et ça va produire malheureusement les mêmes résultats. Deuxième chose, sauf à avoir la mémoire sélective, le coup d'État dont nous parlons au Niger est le quatrième, autant que je me souvienne. Il y en a eu un au Mali, il y en a eu un en Guinée-Conakry, il y en a eu un au Burkina Faso. Et à chaque fois, la CEDEAO, sur ces trois précédents cas, a plutôt pris l'initiative diplomatique de négocier, de transiger et d'échanger avec les poutistes. Alors pourquoi, sur le cas spécifique du Niger, il faudrait aujourd'hui déroger à la méthode qui a prévalu pour les trois précédents coups d'État pour adopter finalement, ce qui ressemble à une sorte de barreau d'honneur, mais moi j'en doute fondamentalement, pour opter, le disais-je, pour une initiative militaire. Donc ça n'a absolument, c'est pas crédible, ça ne se justifie pas. Donc quand vous combinez les deux raisons, la non-préparation et une solution de deux poids deux mesures, ben, vous arrivez fatalement à la conclusion de l'inopportunité de ce type d'initiative. Et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, si vous le permettez, déjà j'embraye là-dessus rapidement, ce que vous avez fondamentalement et totalement raison, John, c'est que c'est quoi l'ordre constitutionnel? Un ordre constitutionnel est issu des élections. Des élections qui elles-mêmes, oui, d'accord, sont régies par des règles légales. Ça peut être le code des élections et même la constitution. Jusque-là, on est d'accord. Mais ça, c'est la parure. Mais un ordre constitutionnel n'a pas que la légalité comme prédicat, comme attribut. Elle a aussi la légitimité. Parce que le fameux ordre constitutionnel dont on parle, si on enlève ordre, l'épithète constitutionnelle, c'est bien la constitution. Donc, la loi fondamentale. Ah, loi. Tiens, loi, volonté du peuple. Émanation de la volonté du peuple. Mais regardons-nous dans les yeux. Est-ce que les lois qui régissent la plupart, les lois constitutionnelles, qui régissent la plupart de nos États aujourd'hui en Afrique, tout au moins dans la partie francophone, dont je parle avec un peu plus d'aisance, est-ce que ces lois sont revêtues et enveloppées de la volonté du peuple? Est-ce que ces constitutions, est-ce que ces codes électoraux sont vraiment l'émanation de la volonté du peuple? Je crois que non. Je crois, moi, de mon expérience et de ma petite connaissance de ce qui s'y passe, c'est qu'il y a des gens qui ont accédé au pouvoir à un moment, qui ont donc privatisé les constitutions et les lois, qui se taillent sur mesure les constitutions et les lois qui garantissent leur perpétuité au pouvoir, et au bout, le peuple est complètement résigné et désemparé. Et lorsqu'advient donc des poutistes, mais que fait ce peuple? Ce peuple soutient les poutistes de guerre lasse, et dit remettez toutes ces règles au sol, je parle prosaïquement comme en Afrique, et nous,
tout
le peuple qui sommes donc dépositaires de la souveraineté, nous sommes pour qu'il y ait une autre constitution.
Alors,
et dans ce cas, on reviendra donc à la légitimité qui précède.
Tout à fait. Alors, vous êtes toujours là, j'espère. René Lecq, bien que le temps soit à l'apaisement, l'option d'une intervention, on le disait, militaire, reste sur la table avec l'activation donc de la force de la CEDEAO. Et les États-Unis font partie des pays qui privilégient toujours le dialogue. Lundi, Victoria Nuland, la numéro 2 de la diplomatie américaine, était à Niamey pour rencontrer les nouveaux pouvoirs en place. Elle dit avoir eu des discussions extrêmement franche et par moments assez difficile avec les autorités, mais elle n'a rencontré ni le général Abdourahman Tiani ni Mohamed Bazoum. Quel poids peut peser la diplomatie américaine dans cette affaire? Et on constate que les Américains sont restés sur la même position, celle du dialogue.
Oui, mais c'est le point de vue, la position américaine, elle est extrêmement importante parce que à un moment, il y avait même des rumeurs selon lesquelles les Américains étaient sur la même position que les Français, ce qui faisait penser que l'intervention militaire était pratiquement inévitable. Et c'est quand il y a eu toutes ces clarifications et qu'il était très clair, comme ça a toujours été le cas, mais malheureusement ça n'avait pas été communiqué clairement, qu'il était très clair que les Américains n'étaient pas sur une position militariste. Les choses, le vent a un peu tourné, bien entendu, il y a eu aussi la mobilisation en interne au Niger, mais également à l'échelle africaine et internationale contre toute intervention militaire. Donc je crois que la position, l'appel au dialogue, la position mesurée et à mon avis réfléchie et pertinente des Américains, elle est essentielle, parce que vous savez, John, quand même, les Américains ont 1000 soldats sur le territoire nigérien. Il y a cette base de drones qui est d'observation et qui joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre le djihadisme dans la région. Donc c'est la deuxième puissance militaire étrangère sur le terrain, on peut dire. Et c'est donc c'est un acteur de poids. Donc je crois que ça, c'est une bonne chose, en tout cas, que la position américaine soit une position d'apaisement et d'appel au dialogue.
Et diplomatique. Lui, Magloire, contre vents et marées, les pouvoirs en place à Niamey avancent néanmoins leur pion. Vous l'évoquiez tout à l'heure, un nouveau premier ministre et un gouvernement sont en place. Est-ce que le pouvoir ne s'éloigne pas définitivement de Mohamed Bazoum? Et même, est-ce que la CEDEAO, à ce stade de la situation, ne met pas en danger la vie de Mohamed Bazoum avec cette option militaire qu'elle continue de brandir?
Le fait est que nous sommes dans un cas de figure très compliqué qui est celui de deux organisations. Parce que nous parlons beaucoup de la CEDEAO, parce que c'est l'organisation sous-régionale la plus importante, mais il y a l'UEMOA également qui s'est réuni avant.
On semble avoir perdu l'Humagloire. On va peut-être essayer de le ramener. Je vais revenir à Cabral Libye. Cabral, lorsqu'on parle d'une intervention militaire au Niger, beaucoup d'observateurs y voient un danger similaire à celui de l'intervention de l'OTAN en Libye qui a entraîné, et on le sait, cette vague de mouvements djihadistes qui pullulent maintenant dans le Sahel. Beaucoup craignent donc un embrasement de la région. Est-ce que ces craintes sont fondées, à votre avis?
Alors, je partage absolument les craintes, mais pas forcément la terminologie qui est employée. Parce que lorsqu'on parle d'embrasement, ça veut dire, par exemple, que par effet d'entraînement, la guerre verrait donc la participation au-delà. Que ce ne serait, enfin, on appellerait ça guerre, mais l'intervention militaire de la CEDEAO provoquerait donc une entrée en guerre d'autres États de la sous-région. Alors, moi, j'inscris davantage cela dans le fantasme que sur autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement la CEDEAO, de mon point de vue, n'a pas les moyens d'une véritable action militaire au Niger, Mais la plupart des États, d'ailleurs, qui se sont empressés d'exprimer leur solidarité au Niger, notamment les États putschistes, n'ont pas eux-mêmes les moyens de la soutenabilité d'une telle intervention, en tout cas pour faire face à une éventuelle intervention militaire. Si ces pays-là étaient de foudre de guerre militaire, je crois que ça se saurait. Je ne suis pas sûr que séquestrer un chef d'État, le maintenir en détention, mettre un ou deux ministres en détention, en leur mettant une arme sous la tempe, veut dire qu'on est une foudre de guerre militaire. Je crois que si c'était le cas, ça se saurait. Si ces pays-là étaient très efficaces militairement, on les verrait à l'œuvre, notamment contre les djihadistes, et en tout cas tous les réseaux djihadistes qu'il y a dans cette partie du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'étais quelque peu intrigué lorsque j'ai vu les raisons avancées par le général Tchiani pour justifier le coup d'État. Il disait insécurité et situation économique. Et moi je me posais la question de savoir, mais insécurité, c'est qui, sur qui doit-on porter le doigt accusateur, pointer le doigt accusateur lorsqu'il y a insécurité, certainement en force de défense. Mais peut-être qu'en filigrane, il essayait de dire que les forces politiques n'alimentent pas suffisamment les militaires. Mais bon, allons savoir si, depuis que d'autres pays voisins sont devenus putschistes, est-ce que pour autant les djihadistes se sont arrêtés. Je crois que jusqu'ici, c'est aussi grâce au soutien occidental, notamment les bases militaires, que ce soit des États-Unis ou de la France, et de façon conjuguée et combinée, que tout le monde a essayé de faire face au djihadisme. Donc moi, vraiment, les prétentions militaires des uns et des autres s'inscrivent davantage dans une forme d'intimidation mutuelle. Ça ne fait pas sérieux, en tout cas, à mon entendement, ça ne fait pas sérieux. Mais toujours est-il que l'embrasement, c'est-à-dire la circulation des armes, dans cette sous-région n'a pas attendu le coup d'État au Niger. Non, il y a longtemps que les armes circulent dans cette partie du monde et qu'on ne veut pas véritablement adresser cette question. D'où viennent ces armes qui circulent et qui se retrouvent entre les mains des djihadistes? Mais tout le monde sait où ces armes sont fabriquées et tout le monde sait, quand je dis tout le monde, ceux qui veulent le savoir, savent très bien où est-ce que les gens achètent des armes, comment ils se les procurent et par quels réseaux ces armes circulent. Donc je pense que quand ça fait l'affaire des gens, ben ils y participent. Quand ça ne fait plus leur affaire, ben ça c'est vieux comme le monde, ben ils se rebiffent. Toujours est-il que le spectacle est absolument désolant et que l'Afrique ne mérite plus ce genre de choses. En tout état de cause, ce qui importe aujourd'hui, jamais, nulle part dans l'histoire du monde, la guerre n'a été bénéfique. Mais justement, les conséquences de la guerre, c'est que les hommes meurent, c'est que les armes se retrouvent entre les mains de ceux qui ne devraient pas les posséder, et que ceux-ci, lorsqu'ils les possèdent, ben, les utilisent pour du banditisme, pour toute autre sorte de pratique banditisme ou tout le reste. Donc, à la vérité, il faut que l'Afrique apprenne à se prendre en main et d'éviter que advienne la guerre. Et pour cela encore, il faut travailler sur la prévention avant de travailler sur la gestion des conflits. Parce que là, maintenant, on va travailler sur la gestion et le règlement des conflits. Mais lorsqu'on est déjà absent dans la prévention, lorsque les constitutions sont tripatriées, c'est là qu'on doit activer la prévention. Alors, lorsque les élections sont fraudées, c'est là qu'on doit activer la prévention. Mais toujours est-il, je réponds directement à votre question, que si jamais il y a guerre, même si c'est une guerre bancale à laquelle personne n'est préparé, mais ce sera encore plus grave parce que justement, comme ce seront les inexperts et non préparés qui seront au front, mais les armes, ça ira partout et la sous-région sera une.
Et c'est le peuple qui va souffrir. René Lec, il y a un acteur dans toute cette situation dont on parle très peu, c'est la Russie. Anthony Blinken a fait savoir que même si Wagner n'était pas à l'origine du coup d'État au Niger, il pense qu'il ne faudrait pas que Wagner profite de cette situation. Que dire de la Russie dans tout ça?
Oui, écoutez, ça c'est toujours une question difficile. Moi, je sais qu'on me la pose souvent, mais je ne pense pas que ce soit une question centrale vis-à-vis par rapport aux enjeux actuels que ce soit localement au Niger, que ce soit dans la région sahélienne et plus généralement dans le rapport de cette Afrique de l'Ouest, de cette Afrique francophone avec l'ancienne puissance coloniale française. Donc je pense que c'est une question qui est franchement secondaire pour les populations africaines, pour les intellectuels africains, pour tous les acteurs dans le jeu. Maintenant, je ne dis pas qu'elle n'est pas réelle et qu'elle n'est pas importante en tant que telle, mais elle reste secondaire dans le contexte actuel. Et c'est vrai que, bon, il y a un véritable problème de ces mercenaires russes, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, aujourd'hui au Niger, voilà, ou en Afrique, en Centrafrique. C'est un véritable problème, mais je ne pense pas que la résolution de cette question-là,
malheureusement,
va se faire au niveau de ce problème.
Merci René, merci à Cabral Libi. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission qui était produite par Michel Joseph. John Linden était à la présentation. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.voafrique.com. Je vous laisse en compagnie de Rosine Monet-Zéro pour les informations. Bonsoir.